France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
L'image, vous l'avez peut-être en tête, plus même que cette voix que vous entendez là, un peu loin dans la chanson de Manu Chao d'ailleurs, l'homme au passe-montagne, avec la pipe qui dépasse, une casquette sur la tête le plus souvent, ou un chapeau melon des Andes, le sous-commandant Marcos, qui défendait la cause des Indiens du Chiapas, descendants des Mayas au Mexique. C'était il y a 25 ans, le fameux soulèvement zapatiste au Chiapas. Bonsoir François-Xavier Freland.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous en revenez de ce Chiapas, et honnêtement, les zapatistes, on les croisait, oubliés. Voilà que cette année, ça a redémarré en fanfare autour d'eux.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Fabienne. Vous entendez derrière moi, entre les deux feux d'artifice, hein, les slogans anticapitalistes, anti-López Obrador, le nouveau président de gauche mexicain. C'était le 31 décembre dernier, en présence discrète du sous-commandant Galeano, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, ex-Marcos, dans la communauté historique de la Realidad, c'est le nom du village. Ça se trouve à plusieurs heures de route de la capitale du Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Le chemin est très sinueux, dangereux, à pic dans les montagnes. On est en territoire autonome zapatiste, les pancartes sur le trajet vous le rappellent. Et puis, j'ai eu la chance d'arriver donc un peu dans les derniers, j'avoue, au milieu des guerrieros zapatistes, tous cagoulés, certains armés.
Voilà, donc un réveillon un peu particulier, François-Xavier.
Oui, on commémorait les événements de 1994, on vous avait parlé, lorsque l'armée zapatiste de libération nationale, menée alors par un jeune métis, le sous-commandant Marcos, devenu célèbre pour son phrasé, ses messages teintés de poésie, s'était soulevé contre les autorités du pays et les politiques néolibérales, mais aussi pour obtenir une reconnaissance des droits indigènes au Mexique, une plus grande autonomie, et notamment au Chiapas, au sud du pays, à la frontière avec le Guatemala, où je me trouve, qui est l'une des régions les plus pauvres du pays et de culture maya. Ce soulèvement, on se souvient, avait fait plusieurs morts, mais avait donné lieu au fameux accord de San Andrés en 1996, qui n'ont jamais vraiment été respectés. En gros, une plus grande reconnaissance et autonomie des communautés indiennes. Depuis, vous l'avez dit, la rébellion zapatiste d'obédience guevariste, hein, du Che Guevara, marxiste-léniniste, très médiatique au début, a connu un léger creux dans les années 2000. Marcos a lui-même repris, a lui-même pris un peu de recul en 2014. Il s'est rebaptisé donc sous-commandant Galeano, du nom d'un instituteur assassiné. Comme nous le rappelle le spécialiste Jérôme Bachet, qui sort en ce début d'année la rébellion zapatiste chez Flammarion. Il est professeur à l'Université Autonome du Chiapas.
Le principal dirigeant de l'EZLN n'est plus le sous-commandant Marcos, mais le sous-commandant Moïses, qui est lui-même un indien de Tseltal. D'une part, il y a une critique très forte depuis le début du personnage Marcos, qui évidemment est un des éléments qui a attiré beaucoup de sympathie, beaucoup d'intérêt, notamment médiatique, mais au détriment peut-être justement de la réalité profonde du mouvement, qui est très ancré dans la réalité, dans la pratique, dans les luttes, dans les traditions des peuples indiens du Chiapas. Donc on a un passage d'un dirigeant métis à un dirigeant indien, ce qui est le signe de l'évolution dans laquelle s'oriente le ZLN.
Un sous-commandant Moïse, donc apparemment plus radical, François-Xavier, pour diriger l'armée zapatiste de libération nationale.
Oui, autant Marcos passait pour un idéaliste, autant le sous-commandant Moïses a un ton plus ferme. On l'entend d'ailleurs derrière moi. Il a eu des mots très durs ce 31 décembre dernier à l'encontre des grands projets miniers, énergétiques et ferroviaires du nouveau président socialiste López Obrador, notamment le fameux train dénommé Maya qui doit rejoindre Cancun, la grande station balnéaire du sud au Chiapas, en passant par le Yucatan. Un train moderne, touristique et culturel, selon les propres mots du président Obrador. Il est même allé se prosterner auprès des derniers représentants mayas pour obtenir grâce. Mais les zapatistes y voient un projet dévastateur pour l'environnement et la culture des peuples indigènes. On écoute Oscar Espino, représentant de l'EZLN, hein, les zapatistes, dans l'état de Veracruz, juste à côté où doit donc passer ce train.
hoy simulan incluso que le preguntan a la Madre Tierra cuando es más una...
Aujourd'hui, ils font croire qu'ils demandent l'autorisation à la Terre-Mère. Mais tout cela ressemble plutôt à du théâtre, soi-disant qu'ils respectent la Terre. Car on sait très bien que ce qu'ils vont faire, c'est la dévaster, en mettant en péril la biodiversité et la mégadiversité culturelle et écologique qui existent dans toute cette région. Ces gens ne vont pas transporter les peuples autochtones. D'ailleurs, ils ne devraient pas s'appeler le train Maya. Car on ne va pas transporter notre culture, ni nos modes de vie. Ce train ne va certainement pas transporter notre mouvement, encore moins notre manière de faire les choses. Ni notre langue, ni nos propres mots font partie de ce projet. Alors nous, on prévient. Nous allons nous défendre.
Tampoco nuestra lengua ni nuestras palabras caben en esos proyectos, pues. Lo que decimos es que sí nos vamos a defender, pues.
Vous voyez, le plus paradoxal, Fabienne, c'est que le mouvement zapatiste semble refaire surface grâce et contre un président de gauche. En gros, ce sont deux gauches qui pourraient s'affronter au Mexique, l'une un peu populiste, plus pragmatique, avec un leader, AMLO, hein, López Obrador, et de l'autre côté, eh bien, cette gauche zapatiste, plus régionaliste, plus écologique, anti-leadership, mais armée, c'est celle donc au visage anonyme, cagoulé des zapatistes.
Le retour des zapatistes 25 ans après leur soulèvement, un reportage signé François-Xavier Frelan, merci beaucoup.